Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 9 avril. Une audience très attendue aujourd'hui. La métropole demande au tribunal de Lyon une expertise pour déterminer les dommages causés par les PFAS en matière d'eau potable et leur origine. La tempête s'évacue vers l'est, encore des vents forts aujourd'hui, de la pluie et le retour du beau temps prévu pour demain. L'état de catastrophe naturelle reconnu pour 5 communes, nous verrons lesquelles dans cette édition. Une journée de sensibilisation aux violences intrafamiliales, c'est ce que proposent demain la ville de Villeurbanne et la métropole de Lyon, avec un bus stationné avenue Henri Barbusse. Mathilde Crépel libère la parole sur l'anorexie. Cette jeune lyonnaise vient d'écrire son premier roman autobiographique, L'anorexie, mon bouclier mortel. Explications et rencontres dans cette édition.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La métropole de Lyon demande donc au tribunal judiciaire de Lyon une expertise pour déterminer les dommages causés par les PFAS en matière d'eau potable et leur origine. L'audience est programmée ce mardi donc. La métropole, accompagnée de la régie eau publique du Grand Lyon et du syndicat mixte d'eau potable Rhône-Sud, vont demander au juge du tribunal judiciaire la désignation d'un expert ou d'un collège d'experts. À terme, et selon les résultats des expertises, la métropole réclamera l'application du principe de pollueur payeur. La tempête s'évacue vers l'est, le vent devrait moins souffler ces prochains jours. Le Météo France prévoit encore des rafales à 50 km/h aujourd'hui. Les températures chuteront dès aujourd'hui avec une baisse de plus de 10 degrés et des maximales attendues aux alentours de 14. Les pluies qui sont encore prévues aujourd'hui ne devraient pas avoir d'impact sur la décrue de la Saône. Les niveaux de la rivière à Lyon seront en légère baisse ces prochaines 24 heures. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans les communes de Couzon-Mondeur, Grigny, La Chassagne, Saint-Romain au Mondeur et Tassin-la-Demi-Lune. Ces communes avaient été touchées par des mouvements de terrain en 2022. Les sinistrés ont 30 jours à compter du 7 avril 2024, date de la parution de l'arrêté au journal officiel, pour faire leur déclaration auprès de leur compagnie d'assurance pour bénéficier de dédommagement.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Une journée de sensibilisation aux violences intrafamiliales, c'est ce que propose demain la ville de Villeurbanne et la métropole de Lyon. De 10h à 17h, de nombreuses associations seront présentes à avenue Henri Barbusse à Villeurbanne pour évoquer et prévenir ces violences. Les assistantes maternelles des maisons de la métropole de Lyon seront également mobilisées. Un bus sera stationné à avenue Henri Barbusse, un espace d'écoute confidentiel pour les personnes souhaitant s'entretenir avec des professionnels de la famille et de la protection de l'enfance. Mathilde Crépel libère la parole sur l'anorexie. Cette jeune lyonnaise de 28 ans est aussi connue sous le pseudo de No Rain, No Flower. Elle utilise les réseaux sociaux pour apporter des connaissances sur l'anorexie et parler de son parcours. En parallèle à cela, elle vient d'écrire son premier roman autobiographique, L'anorexie, mon bouclier mortel. Elle espère que ce livre donnera de l'espoir aux malades et à leurs proches. Notre journaliste Rachel Caston est allée à sa rencontre.
Pour faire face à l'anorexie et informer ceux qui sont touchés par cette maladie, Mathilde a écrit un livre nommé « L'anorexie, mon bouclier mortel ». Tombée dans l'anorexie mentale à 19 ans, Mathilde nous explique l'importance d'écrire ce livre pour elle et pour les autres.
Déjà, l'écriture, globalement, c'est quelque chose qui m'a toujours aidée dans ma vie. Et quand j'étais malade, j'écrivais énormément pour coucher sur le papier toutes les pensées noires que j'avais dans ma tête. Et ça m'aidait en fait aussi à lutter contre les pensées de la maladie. Donc j'avais déjà beaucoup d'écrits que j'avais gardés. Et en plus de ça, j'ai voulu écrire, je pense que c'est vraiment naturellement que j'ai écrit mon histoire, même si ça a été quand même difficile de se replonger dans tout ça, parce que quand j'écrivais, même quand je relisais, j'avais toutes les images en tête, mais ça m'a permis vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur tout mon parcours, parfois de créer des liens entre certaines périodes de mon histoire, même avec mon passé, de reconstituer vraiment les morceaux du puzzle, et ça m'a permis, d'ailleurs c'est ce que j'explique dans mon livre même, parce que ce livre a vraiment fait partie de mon processus de guérison et ça m'a permis en fait de mettre un point final à tout ça pour passer au prochain chapitre de ma vie en fait.
Vous dites dans votre livre avoir été au départ dans le déni. Comment et quand avez-vous réellement compris que vous étiez malade ?
Alors déjà, l'anorexie, c'était une maladie que je ne connaissais absolument pas. C'était aussi une maladie qu'on parlait moins. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en parle davantage parce que malheureusement, c'est aussi il y a énormément de personnes qui sont malades, mais je connaissais pas et même j'avais plein d'idées reçues. Je pensais que c'était juste une personne qui ne mangeait pas, qui était maigre, qui voulait être comme les mannequins. C'est absolument pas ça. Mais du coup, j'avais vu très vite, on m'a tout de suite parlé d'anorexie dès que j'ai commencé à voir que j'avais un problème, que j'allais pas bien. Mais je me suis dit, non, moi, ça peut pas être de l'anorexie, pas moi. Moi, je gère, moi, c'est pas ça. Et ça m'a pris un an, mais c'est ce que je dis dans mon livre, j'appelle ça vraiment un déni conscient, parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. D'ailleurs, je disais, je sais que ça ressemble à de l'anorexie, mais c'est pas ça. Mais au fond, moi, je pense que je le savais, mais c'est dur de s'avouer malade. Et puis surtout, c'est vraiment pas juste un problème de nourriture ou de poids, ça c'est vraiment que la conséquence. Donc c'est ça qui est difficile aussi, c'est d'admettre que c'est un problème vraiment plus profond qui vient remuer des blessures difficiles. Donc ça veut dire qu'il va falloir s'atteler à beaucoup de travail psychologique, quoi.
L'anorexie a impacté plusieurs dimensions de votre vie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Bah, c'est ça aussi qui est très compliqué avec ces maladies mentales, c'est que vraiment ça impacte toutes les dimensions de la vie, parce que déjà, rien que dans notre société, la dimension alimentaire, elle est centrale. Généralement, c'est comme ça que on se retrouve avec des amis, même dans la famille. Donc évidemment, ça impacte la vie sociale, où souvent on se replie sur soi-même. Ensuite, ça impacte évidemment la vie professionnelle. Alors moi, à ce moment-là, j'étais en alternance, donc j'étais encore en côté école et en même temps côté travail. Et donc pareil, moi je pouvais pas du tout m'inclure dans la vie de l'entreprise, parce que je restais jamais avec mes collègues le soir pour boire un verre, je mangeais pas avec eux le midi, donc forcément j'étais en retrait. En plus de ça, j'avais toutes mes pensées qui étaient constamment sur la nourriture, sur mon poids, donc j'étais beaucoup moins dans mon travail. Après, évidemment, il y a toute la dimension familiale, parce que même si c'est moi qui étais malade, ça a évidemment impacté toute ma famille. C'était très très dur pour mes parents de me voir en fait malade et de se sentir totalement impuissant. Et puis moi, j'étais plus moi-même en fait. Comme j'étais dénutrie et que j'avais toutes ces pensées négatives, j'étais tout le temps irritée, je prenais tout mal, j'étais méchante, j'essayais de les faire manger davantage. Enfin, c'était vraiment très très malsain. Donc vraiment, ça a impacté ce côté-là. Ensuite, vers la fin de mes troubles alimentaires, j'ai rencontré du coup mon copain. Évidemment, ça a aussi impacté beaucoup ma vie de couple, parce que y a pas de spontanéité quand on a un trouble alimentaire. C'était très compliqué pour lui de comprendre, donc forcément, il y avait beaucoup de tensions. Et ensuite, ça impacte aussi son rapport au corps, ça impacte vraiment toutes les dimensions de la vie.
Aujourd'hui, vous êtes présente sur les réseaux sociaux, vous diffusez de nombreux podcasts sur la maladie et aussi les troubles du comportement alimentaire en général. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers tout ceci?
Oui, donc du coup, j'ai créé No Rain, No Flower, qui est en effet, on va dire, une bibliothèque de ressources, autant au niveau blog, podcast et Instagram, où je poste beaucoup de contenu pour aider, alors déjà, les personnes qui sont malades, à leur donner des clés. En fait, j'ai vraiment créé ça parce que j'ai voulu créer ce que j'avais pas eu quand moi j'étais malade, parce que en 2015, 2016, 2017, enfin bref, à ce moment-là, c'était pas autant démocratisé, donc je trouvais pas de témoignages de personnes qui en étaient sorties, et j'aurais aimé avoir ça pour me dire que je me battais pas pour rien. Donc déjà, voilà, pour ces personnes qui sont malades et pour aussi leurs proches, pour aider leurs proches à mieux comprendre la personne malade, pour mieux l'accompagner. Et évidemment, globalement, c'est un message d'espoir que je veux donner, parce qu'en plus de ça, il y a aussi l'idée reçue que on ne peut pas sortir des troubles alimentaires, que c'est quelque chose qu'on garde toute la vie, qui reste toujours en toile de fond. Mais vraiment, j'en suis totalement sortie, et je veux donner espoir aux personnes malades, aux proches, pour leur dire que la guérison, elle est possible, elle existe, et vraiment, il faut s'accrocher et y croire en fait, parce que vraiment, un avenir meilleur existe pour eux.
De plus en plus de victimes prennent la parole sur l'anorexie mentale. Cela permet de mieux connaître cette maladie. Cependant, il reste des progrès à réaliser concernant le traitement et la prise en charge des patients. Lors de ses deux hospitalisations, Mathilde a constaté que son service ne prenait pas en charge les patients de plus de 30 ans et que la réussite du traitement pour les médecins correspondait uniquement au poids atteint sur la balance.
Merci Rachel. La métropole va construire une passerelle Modou à coller au pont de Neuville. Elle ne reposera pas sur la structure du pont existant, qui date de 1934 et qui n'est pas en assez bon état pour la soutenir. Une restauration du pont est aussi prévue dans le même temps. L'édifice date de 1934 mais avait dû être pour partie reconstruit après la guerre. La passerelle sera construite côté amont, dans la continuité de la rue Victor Hugo côté Neuville. Les travaux doivent commencer en 2027 et se poursuivre en 2028. Le guide Michelin a publié hier la liste des hôtels ayant reçu une, deux ou trois clés. 189 professionnels récompensés dans toute la France. Parmi les lauréats, 4 établissements se situent dans le Rhône. 2 hôtels 5 étoiles ont été choisis à Lyon, tous les deux situés dans le 5e. La Villa Florentine et la Villa Maya, dirigée par Christian Tête-d'Oie. Les clés valorisent une sélection de séjours particulièrement remarquable. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une excellente journée.